Drainville PM. La voix est libre.
Alors, juste avant de parler de ce sondage, Angus Reid, premier vrai candidat d'envergure pour la chefferie conservatrice qui se déclare il y a quoi, une heure à peu près de ça?
Oui, Peter McKay.
Peter McKay, l'ancien ministre de Stephen Harper.
Ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ancien chef du Parti progressiste conservateur avant sa fusion.
Avec...
Il s'était présenté contre Harper et c'est Harper qui avait gagné la chefferie du nouveau Parti conservateur.
Qui était la fusion entre l'Alliance canadienne et le Parti progressiste conservateur.
Alors, Peter McKay, c'est un politicien qui a beaucoup d'expérience. Il vient d'une famille politique. Son père, Elmer McKay, a été ministre dans le gouvernement de Joe Clark puis dans le gouvernement de Brian Mulroney.
Mm-hmm.
Il a baigné là-dedans depuis qu'il est né.
Ah, c'est ça. Là.
C'est une bête politique, mais certains le trouvent un peu léger.
J'allais dire flaky un peu, là. Ouais, c'est ouais. Ça. Ouais.
Parce qu'il aime beaucoup jouer les allures un peu playboy. Là,
ouais, moi, mais je trouve pas que ça ait ça. Lui, honnêtement, là, il aurait intérêt à miser un peu plus sur le contenu.
Oui, effectivement, mais c'est d'ailleurs ce que ceux qui ne l'aiment pas lui reprochent, de ne pas trop penser au contenu, puis d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Mais c'était une candidature sérieuse.
Moi, très sérieuse.
Moi, Luc, là, j'en viens...
Je ne veux pas le dénigrer, c'est un bon gars.
Moi, j'en viens à la conclusion, là, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais j'ai l'impression que ça va se jouer entre McKay, Poilievre, qui commence une campagne au Québec demain, une tournée au Québec, je devrais dire demain, une tournée de 3 jours, c'est quand même pas rien. Le troisième, évidemment, Charest. Et la quatrième roue, qui pourrait peut-être être une sorte de compromis, ben, j'allais dire Deltel, d'autres diraient O'Toole, mais O'Toole, moi, j'y crois pas.
Ouais, non, ça va,
j'y crois pas, O'Toole, là. Deltel, ça serait vraiment comme un long shot, mais tu sais, rappelons-nous, hein, Stéphane Dion a été élu, il n'y a personne qui le voyait là.
Non, absolument.
Puis eux autres, c'est un système de vote préférentiel, hein, les conservateurs, là. Fait que le dernier saute, puis c'est le deuxième choix qui embarque, puis etc.
Ouais.
Alors moi, j'ai l'impression que ça va jouer dans cette espèce de carré d'as, là.
Et que, ultimement, Charest et McKay vont devoir peut-être s'unir parce que la machine Poilievre va être assez renversante.
Oui, parce que la gang de Harper est toute. Elle s'en va derrière Poilievre, là, c'est bien clair.
Pendant ce temps-là, Justin Trudeau et ses organisateurs et ses stratèges, on les trouve surtout à l'Oratoire Saint-Joseph. Ils font brûler des lampions format familial pour s'assurer que ça va être Pierre Poilievre.
J'allais dire, ils veulent que ce soit Poilievre.
Ben oui, on vivrait le statu quo, ils contrôleraient l'Ouest, puis Trudeau reprendrait l'Ontario et le Québec.
Oui, puis
c'est
un gars de droite.
Poilievre. Très droite.
Je veux dire, on n'est peut-être pas dans le social conservative à la Scheer, là, parce que...
Non, il est pas, il fait pas dans la religion, puis tout ça.
Non, lui. Non, mais alors, ce qui est clair, là, c'est qu'il est à l'aise avec le mariage gay, ou en tout cas, il l'appuie. Je sais pas s'il est à l'aise, mais il appuie le mariage gay, Poilievre.
Oui, oui.
Sur l'avortement, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est quoi sa position.
Ah, tu sais, c'est gueulé.
Moi, je pense qu'il va dire, genre, il y aura pas de projet de loi qui vont changer le droit à l'accès, là. Des femmes à l'avortement, mais sur le fond, elle s'est pas hâte de voir. Moi.
Oui, parce que les pro-vie, là, dans l'Ouest, là, ils ont beaucoup de cartes de membres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Scheer qui a gagné grâce aux cartes de membres achetées par les pro-vie.
Puis ils sont prêts à mettre de l'argent dans cette cause-là.
Ouais, ils vont voter en bloc aussi.
Voilà.
Je te dis que tu as un bloc de 15 000, puis tu le perds, là, c'est dur.
Bon, OK, parlons de ce sondage. Alors, ça sort ce matin dans le National Post. Puis écoutez, je vous l'ai dit un petit peu avant d'aller à la pause. C'est quand même assez remarquable. Là, je ne vais pas vous inonder de chiffres. Je veux juste que vous reteniez deux chiffres. À la question... comment vous trouvez que ça va au Canada? La province ou les citoyens qui votent le plus favorablement, là, qui sont le plus heureux de la manière où comment ça va, comment c'est géré, là.
Comment va le Canada? Hein?
C'est les Québécois à 76% qui trouvent que ça va bien au Canada. Puis ceux qui trouvent que ça va le moins bien, c'est les Albertains à seulement 29%. Ça, c'est le premier chiffre. Retenez ça, le Québec. Trois quarts des Québécois qui trouvent que le Canada, ça va bien. Puis c'est ça. Et après ça, tu poses la question, êtes-vous optimiste à propos de votre futur à vous, là, comme personne, comme famille? Et là, le Québec, les Québécois, c'est à 87% qui disent, oui, on est optimiste pour nous-mêmes, alors que la moyenne canadienne est à 75, puis les plus bas, c'est encore les Albertains. Puis Luc, franchement, là...
Tu l'avais pas vu venir, celle-là, en
Colin! Non, mais honnêtement, les Québécois qui sont les plus optimistes et les plus satisfaits de l'État du Canada... Moi, sérieux, je suis certain qu'on n'a jamais vu ça. Dans l'histoire moderne du Québec, on n'a jamais vu ça.
Probablement pas, mais tu vois, il y a une conjoncture qui sert bien tout ça, là. Une économie qui roule à fond de train.
Au bout. Et à Québec, le taux de chômage la semaine passée...
3 points quelque chose.
3 %.
Ça n'a pas de bon sens.
3 % t'es en dessous du plein emploi.
Ouais,
là.
Oui.
Tu sais, là, t'étais tiré au max. Là. Ouais.
Alors, plein emploi, prospérité économique, surplus budgétaire, donc finances solides.
Oui.
Un gouvernement revendicateur que les Québécois, je suis obligé de l'admettre, ont toujours aimé avoir un gouvernement provincial qui revendique.
Oui.
Même jusqu'à l'absurde, mais qui revendique alors. Mm. Puis t'as à Ottawa un gouvernement mené par Justin Trudeau. Il n'y a pas une histoire d'amour entre le Québec puis Justin Trudeau, mais pas de désamour non plus. Alors il regarde ça aller, puis il dit, sais-tu, pourquoi on viendrait faire sauter ça? Tu sais, c'est comme... quand tu penses qu'en 1995, on était à quelques points de la séparation, quelques points de pourcentage de vote,
Oui. Moi, te dire, là, si on avait posé la même question là, en 1995, il y aurait eu un niveau de mécontentement très, très grand dans les chiffres.
C'était
là.
5 ans après la mort de Mitch, patati et patata et tout ça. Alors, voilà, c'est circonstanciel.
Ça peut-tu revirer? Un matin, j'en parlais avec Paul. Puis Paul a eu la réaction suivante. Il dit, ouais, c'est vrai jusqu'à la prochaine crise.
Oui, ça se peut,
ça se peut qu'à un moment donné, mais m'a dire une chose.
Les tensions à l'intérieur de la fédération et généralement de toutes les fédérations du monde font partie de la structure politique de la place.
C'est la raison pour laquelle il y a une fédération, la raison pour laquelle il n'y a pas un régime central ou centralisé.
C'est
parce qu'il y avait des tensions au départ.
S'exprimer.
Voilà, alors, exact. Mais la tension Québec-Ottawa a été remplacée de nos jours. On verra si ça durera. Mais elle va être remplacée. Elle a été remplacée par la tension Alberta-Ottawa.
Mais Alberta, ça peut tourner de bord très rapidement. Ouvre-leur un pipeline, puis tu vas voir que ça va bien aller.
Une fois que le pipeline va avoir été élargi, là, puis ils vont être capables de sortir, c'est quoi? C'est 700 000 barils par jour, qu'il va pouvoir sortir. C'est sûr que la tension va baisser à ce moment-là. Mais ils ont perdu des jobs, mon vieux.
Ils ont perdu des jobs, ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Et comme Dieu sait, en tout cas, moi, je connais bien cette région du pays, ils ont perdu beaucoup de leur fierté. Ils ont l'impression de s'être fait bafouer à la première occasion. Disait-il, nos affaires vont bien, ça va bien. Tout à coup, paf, on rentre dans le mur. Pourquoi? Parce que les provinces, qui sont supposées être leurs partenaires, refusent de les aider à exporter leur principale source de richesse.
Un matin, là, dans le National Post, Don Brady dit, t'as 30 000 personnes dans la région de Calgary qui ont perdu leur emploi à cause de la crise de l'énergie. Là.
Bien sûr, c'est important.
30 000 jobs, là. Tu sais, fait que t'as du monde qui perd leur maison, qui ont de la misère à faire le paiement. Alors ça, c'est sûr que ça nourrit... Mais tu sais, hein, puis je sais que là-dessus, on s'entend pas très, très bien, là. Mais Legault, là, puis la CAQ, là, qui sont à 70 % de taux de satisfaction chez les francophones, là, Luc, là. Tu sais, c'est quoi le leitmotiv de Legault? La fierté. Mm-hmm. Lui, il veut que les Québécois soient fiers d'être Québécois. Mm-hmm. Il doit regarder ces chiffres-là, puis il doit se dire, ouais, c'est bon, ça contribue.
Ben c'est parfait pour lui, ça.
T'sais?
C'est parfait pour lui.
C'est ça.
Il a dit, vous allez voir, vous êtes revendicateur, je vais être votre revendicateur. Je vais le faire en votre nom, tous, là.
Il y a des affaires qui ont traîné, je vais les régler.
Puis il y a même si dans vos revendications, il y en a que ça a plus ou moins de bon sens, je vais les faire quand même. Puis en plus, moi, je vous dis qu'on s'en va pas faire l'indépendance. Je me suis engagé à pas le faire.
Ouais.
Les Québécois, ils regardent ça, ils disent, parfait. On a tout ce qu'on veut. Ouais. On n'a pas l'indépendance qui amènerait un choc institutionnel et tout ça. On a la prospérité. On a un revendicateur qui nous protège. Comprends-tu?
Puis on est autonomiste.
Voilà. Let's go. Let's keep going. Tu comprends?
Ah oui. Puis comme tu dis, à la fin, c'est l'économie, mon vieux. Tant que l'économie va rouler...
Tant que la prospérité est là, puis qu'on est capable de s'offrir des meilleures écoles, puis d'améliorer notre qualité de vie, ça va bien.
Ben oui, puis tu sais, tu regardes... Là,
tu fais pas sauter un pays de même comme ça. Là,
on n'a pas parlé vendredi passé, là, mais le Québec qui va vendre pour 2 milliards sur 20 ans d'énergie propre au Nouveau-Brunswick...
C'est une bonne nouvelle.
Ben oui, tu dis, c'est de l'argent qui rentre, c'est notre belle énergie propre. Ça aussi, c'est une source de fierté, là.
Ben, je comprends, mais je trouve que là-dessus, je suis complètement M. Legault. Mm. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est une source de fierté. Ça fait longtemps qu'on a même appelé ça, il appelait ça l'or vert, je pense.
L'or vert. Non seulement, il y avait l'or noir, mais il y a l'or vert.
Ben, c'est ça, alors l'or vert, là, comprends-tu, c'est nous, mais... On ne l'a pas exporté tant que ça. Je ne suis pas sûr qu'on a fait tous les efforts. On n'a pas essayé de faire d'efforts, je pense.
Là, on essaye. En tout cas, il y a un bon contrat qui s'est signé. On essaye d'en signer d'autres avec les Américains. On va espérer que ça va fonctionner.
Puis on aimerait ça avoir la porte ouverte vers l'Ontario.
Ah, oui. Mais t'as vu, ils ont un problème la semaine passée, ouais. Un petit incident avec le central nucléaire.
Une
petite frousse, là.
C'était une frousse, c'était rien d'autre qu'une frousse, mais c'était toute une frousse, là. Ça donnait l'impression que...
Qu'il y avait un incident nucléaire.
Un incident nucléaire.
Ouais, à la
c'est
centrale.
Mieux rappeler aux gens là-bas pourquoi le nucléaire. Là. Moi, je suis un truc qui fait...
Vous seriez peut-être mieux avec la belle énergie verte hydroélectrique du Québec.
Et voilà, hein? Regarde, on va faire un beau corridor énergétique, comme disait Scheer. Il va passer du pétrole dans le pipeline, puis de l'électricité chez tout.
Non, laisse faire pour le pétrole.
Ah!
Juste un bord. L'électricité.
Non, il y a une voiture électrique. L'électricité. Tout le monde le sait.
L'or bleu, oui, c'est l'eau, comme nous écrit notre auditeur. OK, on s'arrête. Au retour, on est un peu plus léger. On va prendre vos appels. Il y a une étude qui vient de sortir qui dit que c'est lorsque vous avez 47 ans, dans les pays développés, là, 47 ans, c'est l'âge où on est le moins heureux.
On attrape le vague à l'âme. À un point donné.
Puis moi, je vais te demander, est-ce que tu as eu un. Y a-tu un moment dans ta vie où tu l'as attrapé le vague à l'âme? T'as-tu eu une année là, où ça a été plus difficile? Puis je vais ouvrir les lignes, je vais vous demander, y a-tu une année où ça a été plus difficile pour vous? Vous avez frappé une sorte de mur, où ça a été une espèce d'espace de transition?
Avez-vous frappé un mur?
Ou avez-vous anticipé que ça allait mal aller à telle ou telle année? Puis finalement, vous l'avez traversé sans difficulté? On en parle après la pause.